Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit. Il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce samedi 14 mai. Et vous, avez-vous réduit vos achats? Sur quoi reniez-vous? Grosse enquête du Parisien aujourd'hui en France. Inflation qui grimpe et pouvoir d'achat en berne. Le détail dans un instant. Et puis concrètement, reportage dans une famille près de Nantes où le quotidien a changé pour la classe moyenne. Le pouvoir d'achat, enjeu numéro 1 du prochain gouvernement avec une loi d'urgence examinée dès juillet. Gouvernement qui sera annoncé la semaine prochaine. Avec quel Premier ministre? On en parlera avec mon premier invité, le journaliste et écrivain Patrice Duhamel. La situation en Ukraine, Kharkiv, second fiasco de l'armée russe, négociations pour évacuer Azovstal et combats violents au Donbass. Et dans ce contexte, une belle histoire qu'on va vous raconter. Des jeunes Ukrainiens qui, malgré tout, ont quitté leur pays en guerre, direction la France pour participer aux gymnasiades. Ça commence demain à Deauville. On va en parler avec le directeur de l'Union nationale du sport scolaire, Olivier Giroud, en studio avec nous. Le sport, bien sûr, avec le sprint final en Ligue 1 et peut-être la relégation pour Bordeaux. Et la boxe ce soir, Tony Yoka, en quête du titre de champion du monde. Enfin, l'Eurovision, c'est ce soir. C'est un groupe breton qui va représenter la France. Et pendant ce temps-là, au Stade de France, se tiendra Rockin' Mill, 1000 musiciens pour célébrer le rock. Philippe Manœuvre sera avec nous vers 1h moins 10 pour nous en parler. Mais avant de développer ces titres, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Samedi estival, Thierry, avec un soleil généreux sur la plus grande partie de la France et un temps plus lourd et orageux sur les régions du sud-ouest, des maximales contrastées entre 16 à Dunkerque et 32 à Avignon.
La météo complète juste avant 13h. Faire des choix, moins acheter de vêtements, supprimer les loisirs, oublier le petit resto du samedi soir, c'est la conséquence des prix qui grimpent et de notre pouvoir d'achat qui diminue. Zoé Pallier, bonjour.
Et bonjour.
Les Français renoncent à certaines dépenses.
Hein. Oui, surtout les ménages aux revenus les plus faibles, les premiers à subir l'inflation qui continue de grimper, plus 4,8% en avril d'après l'INSEE. Mais la consommation recule globalement pour tous les Français car ils ont changé leurs habitudes dès que les prix ont commencé à augmenter, notamment dans le secteur alimentaire, explique Karine Sanouillet, experte de la grande distribution.
Ils achètent plus de premiers prix, donc les produits vraiment les moins chers de chaque catégorie. Et puis, il y a aussi des arbitrages de type de produits et de fréquence d'achat. Et notamment, on constate que la viande, qui est un produit assez cher, en mars, a baissé de 13,2%. Donc, c'est parmi les rayons qui baissent le plus au sein de la grande consommation.
Alors, d'autres secteurs souffrent de ces nouveaux arbitrages. Le Parisien, aujourd'hui en France, en fait sa une ce matin. D'après Le Quotidien, les dépenses en produits de beauté, par exemple, ont chuté de 5% par rapport à 2019. En fait, c'est sur ce type d'achat non essentiel que les Français se restreignent, observe Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM.
L'équipement de la personne, c'est-à-dire les vêtements, l'équipement de la maison aussi, l'ameublement. Si quelqu'un avait par exemple envisagé de changer son canapé, il a un canapé, il va le garder peut-être 6 mois ou 1 an de plus. Les Français n'hésitent pas effectivement à reporter certains de leurs projets.
En revanche, pour l'instant, les Français qui peuvent partir cet été préservent au maximum leurs vacances. Ils réduisent leurs dépenses en amont pour ne pas avoir à les annuler.
Merci Zoé Pallier. Allons voir concrètement comment on fait dans une famille pour boucler ses fins de mois. Dans une famille de classe moyenne à Pont-Saint-Martin, c'est près de Nantes. Reportage Charles Guyard.
Une maison en pierre apparente dans un petit village près de Nantes. D'apparence, Clémence et sa famille semblent ne manquer de rien. D'apparence seulement, car quand on ouvre le réfrigérateur...
Je pense que vous pouvez le constater, pas grand-chose.
Pas grand-chose en effet, et on n'est pourtant qu'à la moitié du mois.
Tout augmente, donc on se prive. Avant, avec 200€, on pouvait peut-être aller jusqu'à 15 jours. Aujourd'hui, il est rare qu'on n'atteigne pas les 200€ par semaine.
Et tout cela sans compter les différentes factures d'énergie à régler. Des factures qui flambent, elles aussi, dans ce foyer de la classe moyenne, avec deux enfants de 6 et 1 an. Résultat, il faut faire des choix parfois radicaux, surtout quand le gazole flirte avec les 2€ le litre.
On ne sait pas encore si on va partir en vacances cet été.
Moins de loisirs, pas de vacances en vue, mais peut-être un coup de pouce en juillet avec le chèque alimentaire.
C'est quelque chose qui peut nous aider. C'est comme les APL, on n'y a pas le droit, alors que honnêtement, c'est un peu difficile, quoi.
Et quand on compte à l'euro près à la fin du mois, accéder à la propriété est désormais inenvisageable. La maison en pierre apparente qui abrite cette famille est en fait une location. Pont-Saint-Martin, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà, vous le savez, une loi d'urgence sera examinée dès juillet à l'Assemblée pour faire face à ces hausses des prix. Mais il faut penser à plus long terme. C'est ce que m'expliquait Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il était mon invité ce matin à 7h10 dans la matinale week-end.
On va pas faire des pansements pendant des années, Enfin, je crois qu'il y a un peu de dogme là derrière. Ouais, dire, ah oui, non, mais attendez, nous, c'est parce qu'il y a une crise qu'on apporte cette aide-là. Mais quand il s'agit d'avoir une réforme structurelle qui durablement donne des perspectives et permet de sortir la tête de l'eau à nos concitoyens les plus fragiles, là, on n'arrive pas. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Pendant la crise Covid, il y a eu un vrai engagement, il y a eu des vraies mesures. Là, on en entend aussi. Bon, je pense que le moment est venu de se réinterroger sur notre modèle social, le niveau de protection. Comment on fait pour les plus fragiles et les plus pauvres? Et comment on fait sortir de la pauvreté ceux qui en souffrent le plus aujourd'hui?
Voilà, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, ce matin sur Europe 1. Voilà donc une grosse mission pour le nouveau gouvernement qui sera connu normalement la semaine prochaine avec un ou une Premier ministre annoncé sans doute lundi. Bonjour Patrice Duhamel.
Bonjour.
Journaliste et écrivain, on l'a appris ce matin finalement, Jean Castex n'ira pas au Vatican demain parce qu'Emmanuel Macron se rendra, lui, à Abu Dhabi pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis décédé hier. Et les deux chefs d'État, on le sait, les deux chefs de l'exécutif ne peuvent être hors du territoire en même temps. Mais Jean Castex reste en poste encore quelques heures. Ça va se passer comment? Il donne sa démission demain soir, comment ça se passe?
Il donne sa démission entre demain soir et lundi soir, j'imagine. Ça dépend, je ne sais pas à quelle heure le président va rentrer de ce déplacement dont vous venez de parler. Mais là, on rentre dans quelque chose, dans une phase qui est assez classique. Autant la situation est assez inédite depuis le second tour de la présidentielle, autant là, on va rentrer dans une phase de quelques jours. A priori, démission du gouvernement qui n'est pas imposée, il faut le savoir, par la Constitution. C'est l'usage qu'après une élection présidentielle, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque quand De Gaulle a été réélu en 65, il a reconduit son Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, et il l'a reconduit pendant plus de 3 ans et demi, jusqu'à juillet 68, au lendemain des événements de 68. Donc vraisemblablement, le nouveau ou la nouvelle Premier ministre sera nommé quelques minutes, quelques heures après la démission de Jean Castex, donc j'imagine dans la journée de lundi. Ouais. Là, il y a la formation du gouvernement, des négociations, puisque tout a été secret jusqu'à présent. Donc il faut quand même que le président, ses collaborateurs et le nouveau ou la nouvelle Premier ministre dialoguent avec les ministres pressentis. Ouais. Donc ça prend 2-3 jours. On peut imaginer que le nouveau gouvernement sera réuni en Conseil des ministres jeudi prochain, quelque chose comme ça, ou vendredi prochain.
Allez, voilà pour le timing.
Tard.
Patrice Duhamel, qui à Matignon? On parle beaucoup, de plus en plus, d'Elisabeth Borne, qui semble être le nom le plus cité. Il faut le bon profil à un mois des législatives.
C'est très compliqué, le profil, et ça sera très intéressant, puisque le président ayant dit qu'il serait un président nouveau, dans une phase nouvelle, avec un peuple nouveau, pour un mandat nouveau, le profil va être la première vraie indication sur ce que sera le style et le profil du second quinquennat. Ouais. Est-ce que ce sera un style Castex? Et donc ça pourrait être, on en parle aussi, Catherine Vautrin qui vient de LR, qui a été ministre de Chirac et qui a la fibre sociale, qui est actuellement la présidente de l'agglomération, la communauté de Reims. Elle a été maire de Reims également. Elle a une expérience politique intéressante. Ou est-ce que ce sera quelqu'un qui serait plus sur un profil politique, puisqu'il y a quand même a priori une campagne législative à mener, mais a priori c'est le président qui va la mener, même s'il n'ira pas dans toutes les circonscriptions de France faire campagne, bien évidemment. Mais le profil va être très intéressant. Ça va vraiment donner une indication majeure sur ce que sera ce quinquennat. Est-ce que ce sera, pour reprendre l'expression de Sarkozy sur Fillon, un super collaborateur ou une super collaboratrice, ou est-ce que ce sera quelqu'un qui pourra disposer d'une autonomie? C'est ça le vrai sujet. Donc on parle effectivement, vous l'avez dit, d'Elisabeth Borne. On parle donc, je le disais, de Catherine Vautrin. On parle aussi d'une autre ministre qui est ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Mais a priori, effectivement, le consensus des pronostics, si on peut dire, c'est que ce devrait être une femme pour la première fois depuis 30 ans, puisque la dernière, c'était la seule.
Edith Cresson.
C'était Edith Cresson en 91, 31 ans.
Allez, donc résultat des courses, a priori, donc lundi. Lundi dans la journée, je rappelle votre livre sorti en janvier en format poche, L'Élysée, coulisses et secrets d'un palais. C'est coécrit avec Jacques Santamaria. Merci à vous, Patrice Duhamel.
Merci, bonne journée.
Merci également. Un mot encore de politique pour vous dire que Marine Le Pen ne sera a priori pas candidate à la prochaine présidentielle, sauf événement exceptionnel. Elle le dit ce matin dans les colonnes du Figaro. L'ex-candidate à la présidentielle explique aussi ne pas faire d'alliance avec Éric Zemmour, avec qui elle n'a pas la même vision stratégique, notamment vis-à-vis des classes moyennes. Allez, un premier arrêt dans Europe Midi Week-end. Dans un instant, la situation en Ukraine. Et puis cette formidable histoire de jeunes Ukrainiens venus faire du sport en France. Ils seront demain à Deauville. Et puis le sport avec du foot et de la boxe ce soir. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral.
1h20, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. On va faire un point à présent sur la situation en Ukraine avec des tensions à Mariupol. Mais la Russie qui durcit son offensive dans le Donbass, mais sans faire de percée majeure, Guillaume Dominguez.
Ce que vous entendez, c'est le son d'une vidéo prise sur le front. Elle nous a été envoyée par un civil ukrainien qui vit toujours dans le Donbass. Ces affrontements ont lieu dans la région de Lugansk. L'armée russe tente par tous les moyens de continuer sa progression vers le sud. Mais l'armée ukrainienne tient bon. Une dizaine d'attaques ont été repoussées en 24 heures, selon l'état-major ukrainien. Nos frappes d'artillerie mettent en difficulté les Russes et empêchent l'arrivée de renforts venus du nord, précise-t-il dans un communiqué. Plus à l'ouest, la libération de la ville de Kharkiv se poursuit. La principale activité de l'ennemi dans la région et le retrait de ses unités, se félicite le gouvernement local. À Mariupol, en revanche, la situation du bataillon ukrainien retranché dans l'usine Azovstal est critique. Il y aurait plus de 600 soldats blessés pris au piège dans le complexe industriel. Selon la vice-première ministre ukrainienne, les négociations avec les Russes sont très difficiles. Notre objectif est de faire sortir en priorité le personnel soignant et les 38 soldats gravement blessés.
Guillaume Dominguez, et puis la déclaration du G7 en Allemagne. À l'instant, le G7 ne reconnaîtra jamais la frontière que la Russie tente de modifier par la force. Cette belle histoire à présent, en marge de ce terrible conflit, ils sont ukrainiens. Ils ont entre 15 et 18 ans. Ils sont arrivés en France pour participer dès demain à Deauville au Gymnasiade. C'est une compétition internationale entre lycéens, des jeunes reçus hier à l'Elysée. Reportage Thibaut Huy.
T-shirt jaune et bleu sur les épaules, ces 37 jeunes Ukrainiens sont arrivés en bus de Lviv. Un long trajet exceptionnel de 1500 km organisé par l'ONG ACTED et l'Union Nationale du Sport Scolaire. Parmi eux, Nazir, 16 ans, breakdancer, soulagé d'être venu malgré la guerre.
Je suis très fier de représenter mon pays, l'Ukraine, dans ces moments difficiles. Je suis concentré sur la victoire et j'espère que je pourrai apporter la victoire pour l'Ukraine. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mon pays.
Not for me, but to Ukraine.
En attendant la compétition, il s'entraîne avec ses coéquipiers à l'INSEP à Paris. Une chance pour Nazir qui a continué à danser en Ukraine dans des conditions très difficiles.
Là où je m'entraîne, il y a un centre militaire. Alors j'ai décidé de m'entraîner chez moi, dans l'abri anti-bombe. J'aimerais rester ici aussi longtemps que possible.
Oleg, son coach, est du même avis. Ce voyage en France est une bouffée d'oxygène.
Quand on est à l'extérieur du pays, on se sent plus relax. Là-bas, il y a beaucoup de stress. Ici, on se sent en sécurité. C'est une grande chance pour nous de continuer à représenter notre pays pendant la guerre. On est chanceux.
Alors rendez-vous dimanche à Deauville pour ces jeunes sportifs qui vont commencer la compétition bien loin des bombes et de la guerre.
Voilà, Thibaut Huy, merci d'être avec nous en studio. Olivier Giraud, bonjour.
Bonjour.
C'est vous le monsieur Gymnasiade, c'est vous, vous êtes le directeur de l'Union Nationale des Sports Scolaires. Faire venir ces mômes d'Ukraine, ça a été un casse-tête. Vous avez été aidé par une ONG, hein?
Oui, on a été aidé par une ONG parce que organiser ACTED, le sport scolaire, ACTED, c'est notre savoir-faire, mais sur le territoire français, aller sur des terrains de guerre, ça on ne sait pas faire et merci ACTED, surtout merci de la réactivité. Hein. C'est parti de quelque chose de tout simple, nous avions prévu d'accueillir des Ukrainiens, mais des Ukrainiens en Europe.
Racontez-nous, il a fallu être très très discret, faire passer la frontière bien sûr discrètement.
Très discret, ça a été beaucoup de diplomatie et c'est parti de mon président, hein, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui a promis à son homologue ukrainien de faire venir venir aussi des enfants d'Ukraine. Et pour cela, il a fallu être très, très discret parce que ça aurait été les mettre en danger si cela avait fuité. Et ben, heureusement, tout s'est aligné, ACTED, mais aussi l'INSEP, parce que avec Fabien Canus, son directeur, pour les accueillir, pour leur donner aussi la possibilité de s'entraîner, sinon ça aurait été impossible.
C'est 37 jeunes Ukrainiens qui sont sur le sol français. Hein.
Alors, pas 37, parce qu'il y a les accompagnants. C'est 27 jeunes Ukrainiens.
Ouais.
On parle souvent et on voit ce terrain de guerre, on le voit à travers la presse, à travers la télé, mais les rencontrer et les entendre émotionnellement, moi qui ai vécu pas mal de choses, j'ai pris une grande claque.
Ouais. Ils vous ont dit quoi ? On vient de les entendre d'ailleurs là.
Ils nous ont dit merci, ils nous ont raconté leur périple parce que le checkpoint était à Lviv. Mais ils venaient de partout et il y a certains jeunes qui viennent d'Odessa. Ils ont quitté des terrains où ils entendaient les bombardements. Ils étaient
l'enfer.
Dans la guerre. Et il a fallu les transporter jusqu'à Lviv. Donc un périple incroyable pour arriver à Paris et arriver parmi nous.
Et c'est une façon bien sûr de les faire sortir de cette horreur et de leur offrir quelques heures finalement de bonheur.
Ben, on leur offre quelques heures de bonheur, mais... ce partage, c'est eux qui nous le donnent. Cette leçon d'humilité, cette leçon de courage, quand on le voit à travers les yeux d'enfants, ça nous remet tout simplement à notre place. On est toujours sur nos difficultés.
Bien sûr.
Mais quand on voit ces gamins arriver, nos difficultés, on les oublie très rapidement.
Olivier Giraud, vous êtes bien sûr ancien joueur de hand, ancien champion olympique. Racontez-nous ces gymnasiades. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ça commence demain à Deauville. Hein.
Ça commence demain. Il va y avoir 20 sports sur toute la Normandie. Et donc, c'est un peu la répétition. C'est encore Jean-Michel Blanquer qui nous a permis de faire ça. Ce sont les Jeux avant les Jeux. Ça n'a jamais été fait d'organiser 2 ans les Jeux Olympiques scolaires et une préparation qui nous emmènera jusqu'aux Jeux Olympiques à Paris. Donc c'était un grand défi.
Donc toute discipline. Hein.
Toute discipline, 20 disciplines dont 3 parasports parce que c'est quelque chose d'important. L'intégration du handicap, c'est quelque chose qui est très important à l'intérieur du sport scolaire parce qu'il n'est pas à côté mais il est intégré à l'intérieur, et c'est une des particularités du sport scolaire.
Des gymnasiades donc, qui débutent demain à Deauville, placées, on l'a entendu, sous le signe de la paix et de la solidarité. Merci à vous, Olivier Giraud.
Merci à vous.
Le directeur de l'Union nationale du sport scolaire.
Tous les sports et sur Europe 1.
Du sport ce soir, bien sûr, avec le foot. 37e journée de Ligue 1, c'est chaud pour Bordeaux. Et dernière journée de Ligue 2, et ce pourrait être le grand soir pour Ajaccio. 8 ans après leur descente, les Corses vont retrouver l'élite la saison prochaine s'ils s'imposent face à Toulouse. François Pérez.
Oui, et l'ambiance s'annonce volcanique. 8000 spectateurs dans un stade François Coty à guichet fermé. Plus d'un Ajaccien sur 10 sera dans les tribunes. Le président de la CA, Christian Leca, tente de rester calme car le travail n'est pas encore fini, mais il a bien du mal.
Ce qui nous est arrivé cette année, c'est exceptionnel. Personne, y compris moi, pensait qu'on en arriverait là à une journée de la fin.
Et pour cause, avec moins de 10 millions d'euros, l'AC Ajaccio fait partie des petits budgets de Ligue 2, ce qui n'a pas empêché Christian Leca de viser très haut dès son arrivée à la tête du club.
Quand j'ai pris mes fonctions, en juillet 2019, mon premier interview, j'ai dit mon objectif, au bout de 3 ans, c'est de ramener le club en Ligue 1. Donc je suis plus qu'à une petite marche de réaliser mon objectif et j'espère que les joueurs de la CA vont gravir cette marche.
Dans sa lutte à distance avec l'AJ Auxerre, Ajaccio a toutes les cartes en main. Christian Leca le promet, si monté, il doit y avoir, la fête sera belle dans le sud de la Corse et la CA sera prête à honorer son retour en Ligue 1 dans les meilleures conditions.
Voilà le chef des sports d'Europe 1, Jean-François Pérez. Grande soirée foot à suivre sur Europe 1 dès 19h autour de Lionel Rousseau, bien évidemment. La boxe, Tony Yoka en quête du titre de champion du monde des poids lourds ce soir. Il aura 10 rounds pour venir à bout de Martin Boccolé. Tony Yoka face à un adversaire lui-même congolais. Combat qui débute à 22h.
Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral.
12h53, la suite de votre édition de la mi-journée sous le soleil sur Europe 1. Ce soir, à Turin, ce sera la traditionnelle finale de l'Eurovision et c'est le groupe breton Alan et A.S. qui va défendre les couleurs de la France avec un titre en langue bretonne. Fulen, ça veut dire étincelle et jolie fille à la fois. Pour Europe 1, Naïma Benchemal a rencontré l'une des trois interprètes, Stérène Diridolou.
De se dire qu'on va présenter cette chanson-là, Fulen, devant 180 millions de téléspectateurs, 15 000 personnes dans la salle. Cette chanson-là qu'on a fabriquée dans notre chaudron magique cet été. On a vraiment hâte tous les quatre de faire ce show et de présenter cette chanson-là avec les flammes, la fumée, les lumières. Ça va être un moment magique. C'est vrai que les retours que nous font les gens, que nous font le public, que nous font les autres artistes sont plutôt très encourageants. Là, l'objectif, c'est aussi de montrer que on a un pays très très riche culturellement en termes de diversité de langue, mais aussi en termes de diversité musicale.
Voilà les Bretons ce soir pour représenter la France, même si bien sûr l'Ukraine part très grand favori. Autre salle, autre ambiance. Là, vous reconnaissez sans doute le tube des Clash, repris par 1000 musiciens amateurs. Immense concert ce soir au Stade de France. Ça s'appelle Rockin' Mill et en maître des cérémonies, Monsieur Philippe Manœuvre. Bonjour Philippe.
Bonjour Thierry.
C'est la deuxième édition. C'est quoi le programme? C'est quoi le principe?
Alors le principe, c'est de prendre 1000 musiciens, plus de 1000, ils sont 1038 exactement ce soir. C'est des musiciens amateurs. Certains d'entre eux sont des vraies pointures et des virtuoses, mais ils se réunissent tous pour jouer pendant 2 heures des grands morceaux du classic rock. Ça va aller des Who aux White Stripes, en passant par Nirvana, les Foo Fighters, les White Stripes, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Ça va être très très rock,
c'est
Téléphone.
Pas mal.
On fait beaucoup une grande place au rock français. Il y aura des morceaux de Trust, il y aura Téléphone, il y aura les Rita Mitsouko qui vont être interprétés. Et on a 2 invités très prestigieux.
Et
on
a
Richard Kolinka, le batteur de Téléphone et des Insus, qui va venir jouer Un autre monde avec les 359 batteurs. Et ça va être vraiment un moment fabuleux, parce que là, on a un vrai partage. On a vraiment le musicien qui a créé le morceau, qui vient avec les gens qui adorent le morceau et qui, 40 ans après, le jouent toujours.
C'est fou, ça.
Et puis, on a M.
Mathieu Chédid.
Voilà, le grand, grand guitariste rock français qui va être là avec nous et qui va faire quelque chose d'incroyable pendant... Enfin, je ne dis rien, je ne veux pas dévoiler, mais il va y avoir des surprises.
Ah ouais.
Et M va faire quelque chose de fou, voilà. Donc, on est hyper heureux parce que c'est la première fois qu'on a vraiment une star aussi impressionnante qui vient et qui, pendant 15 minutes, va nous faire tous les trucs et les tours inimaginables dans un stade.
Ouais.
Moi, je m'éclate parce que je présente des morceaux, c'est du rock, c'est que du rock. Et ça me fait vraiment plaisir de réunir 50 000 personnes au stade. Il fait très beau. Le seul truc qui aurait pu nous embêter, c'est la pluie.
Ouais,
parce que
là,
comme on a 300 batteries et 500 remplis sur la pelouse du stade...
Là, vous êtes béni des dieux.
Voilà, et ben là, voilà, pour la deuxième fois, on est béni des dieux. On a un temps magnifique sur
Philippe, rapidement,
Paris.
Cette idée, elle vient d'où, Rockin' Mill?
Elle vient d'Italie.
Ah oui.
Et d'ailleurs, vous verrez le Rockin' Mill dans l'Eurovision, parce que comme l'Eurovision a lieu en Italie, les gens du Rockin' Mill ont tourné une petite séquence amicale pour dire voilà, c'est les Italiens, c'est Fabio Zaffanini qui a découvert un jour que le groupe Foo Fighters faisait une tournée italienne sans passer par sa ville à Cesena. Et donc, il a réuni 1000 copains dans le stade de Cesena. Ils ont joué 2 morceaux des Foo Fighters.
Ouais.
Et c'est devenu viral. Il y a eu plusieurs millions de vues, 4 millions de vues sur Internet en 2 jours. Et du coup, Dave Grohl, des Foo Fighters, a dit « Mais nous, si c'est ça, on arrive !» Et donc...
Et c'était parti. Allez, Rockin' Mill. Rockin' Mill ce soir au Stade de France. Merci à vous, Philippe Manœuvre. Belle soirée à vous. Alors, la météo à présent, Valérie Darmon, c'est un programme estival aujourd'hui, même si le ciel s'assombrit par la façade ouest.
Effectivement, le soleil domine jusqu'à ce soir, même si des bourgeonnements nuageux se développent, pouvant donner quelques orages localisés sur les reliefs. Et ce soir, sur la Bretagne et les Pays de la Loire, vos thermomètres afficheront 30 degrés au moins en Nouvelle-Aquitaine. Et puis en soirée, du golfe de Gascogne, le long de l'arc atlantique, du Pays Basque vers la Vendée et les Pays de la Loire, jusque sur la Bretagne. Les orages remonteront, éclatant surtout demain à la mi-journée dans le nord-ouest. La fourchette des maximales au-delà des 30-32 degrés sur Cahors et Avignon, entre 17 à Saint-Brieuc et 31 dans le Bordelais. 31 degrés annoncés à Bordeaux par Météo France, 30 degrés à Périgueux et Toulouse, 28 à Angers, 27 à La Rochelle, 25 à Paris, 24 à Charleville-Mézières et 22 à Brest et Amiens.
Profitez bien surtout. Merci Valérie Darmon. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet. Isabelle qui reçoit la chanteuse Sophie Tapie. À tout de suite pour les toutes dernières informations sur Europe 1.